Je suis très ravi de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Il est 11h, passé de quelques instants. Et vous comprenez sans doute que nous sommes dans l'émission Club de la Presse, troisième numéro pour le compte de cette semaine. Michel Vitogbe Kokou Tomiga assure la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakoucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Club de la Presse, vous pouvez également, alors vous pouvez nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège aussi de nous suivre partout dans le monde grâce à nos plateformes numériques sur lesquelles pardon, nous émettons et aussi avec nos radios partenaires Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est avec des confrères journalistes et aussi des invités en studio pour discuter et débattre, commenter, analyser surtout l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et j'ai déjà des confrères journalistes avec moi en studio. Abel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
J'espère que tu vas bien.
Ça va bien par la grâce de Dieu.
Voilà, vous êtes là pour le compte alors du journal Santé Éducation. Et nous savons que Santé Éducation, c'est chaque mercredi déjà dans les kiosques. On retrouve votre journal ce matin.
Exactement, c'est mercredi. On va parler santé. Et ce matin, nous sommes là pour parler de notre parution. Et comme vous le savez déjà à la une, la parution est déjà dans les kiosques et sur notre site internet www.santeeducation.tg.
Alors, l'autre confrère qui nous a rejoint dans cette émission et qui vient même d'ailleurs d'arriver, c'est Sylvestre Béni, le plus béni plutôt, alors des journalistes, j'allais dire. Béni, bonjour.
Le seul béni, il faut corriger. Bonjour, bonjour Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Fabrice Patom Petizi, Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, j'espère que vous allez bien.
Ça va, on rend grâce à Dieu.
D'accord, Dieu merci. Alors, Abel, nous revenons à vous pour parler santé, déjà pour ouvrir cette émission à la une. Alors, de votre journal, ce matin, vous titrez « Goussy, éviter et renforcer le traitement de la prostatite ». Alors, Goussy, comme on a l'habitude de l'appeler dans notre patois ou dans notre langue locale, c'est la graine de gourge, je pense bien.
Exactement, ou de courge. Voilà. Goussy, comme on l'appelle souvent en minant ou en levé, ce sont les graines de courge. Voilà, ce sont des aliments très thérapeutiques. Et dans cette parution, nous faisons juste un petit focus sur son effet positif contre la prostatite. La prostatite, c'est l'inflammation de la prostate. Donc déjà, ça touche les hommes. Donc, quand vous avez la prostatite, il faut aller à l'hôpital faire un test parce que cette inflammation, si elle n'est pas prise en charge très tôt, ça peut déboucher sur un cancer de la prostate. Et au Togo, vous savez aujourd'hui que le cancer de la prostate, selon les études, on a chaque année 300 nouveaux cas de cancer de la prostate au Togo. Donc, la prostatite. Si elle n'est pas prise en charge rapidement, on peut voir que le patient, bien la personne qui est victime, peut avoir des difficultés à uriner. Ça peut créer des troubles urinaires et des troubles de la miction, des envies pressantes et fréquentes d'uriner, un jet d'urine faible. Donc, Goussy est un super aliment qui peut aider à soulager ses symptômes, à soulager ses problèmes au niveau de la prostate. Donc, l'autre côté, c'est que Goussy permet également de renforcer le traitement. C'est-à-dire, si on vous diagnostique de la prostatite, par exemple, donc Goussy peut être comme un complément alimentaire. Une source de Goussy peut être associée au traitement pour que la guérison puisse être rapide. Donc, Goussy, c'est un bon diurétique pour les hommes qui ont des problèmes de la prostate, qui ont des problèmes de prostatite. Donc, cette parution, nous faisons juste un petit focus pour montrer que nous avons des aliments naturels chez nous qui peuvent nous aider. Et pour finir, c'est que ça ne remplace pas le traitement contre la prostatite. Donc, c'est en fait le focus qu'on veut mettre.
Voilà. Ça ne remplace pas le traitement, mais il est très important de préciser cela. Voilà. Alors, au-delà alors de Goussy, vous parlez aussi du vieillissement et vous donnez alors des règles pour vieillir en bonne santé.
Oui, exactement. Vieillir en bonne santé, tout le monde va passer par là. Mmh. Vous savez, à tout âge, il faut toujours prendre soin de sa santé. Mmh. Donc, au fil des années, on voit que la santé, notre santé se détériore au fil des années. Et il faut prendre, bien, il faut adopter quelques règles qui peuvent nous aider à être en bonne santé. Mmh. Surtout l'alimentation. Surtout l'alimentation est vraiment très importante pour que nous soyons en bonne santé. Le sommeil et l'activité physique également. Donc, ce sont de petites règles que nous avons essayé de mettre dans le journal pour informer les gens pour avoir une bonne santé au fil des années.
Voilà. Et que pour vieillir, il faut vieillir également en bonne santé, tel que vous l'écrivez dans votre journal ce matin. Alors, vous parlez aussi de l'énergie et de la force, et vous dites plutôt que si nous voudrons avoir de l'énergie et de la force, il est très important de consommer des jus naturels.
Oui, ce sont des jus maison qu'on peut faire, comme je le dis, à la maison. Pour booster notre immunité. On se sent très fatigué, on se sent très stressé, on est anxieux, l'immunité, la capacité immunitaire diminue. Donc, ces jus qu'on peut faire avec des fruits, avec des légumes qu'on a sur le marché, peuvent nous aider à booster notre immunité, à avoir de l'énergie, de la vitalité, du tonus pour nos tâches quotidiennes, nos tâches ménagères, pour être en forme également.
De l'énergie, on en a besoin, de l'énergie et de la force, bien évidemment. Alors, on doit s'inquiéter quand on trouve alors du sang dans les selles, c'est ce que vous écrivez. Alors, ce matin, quelle doit être alors l'inquiétude quand on trouve vraiment du sang dans les selles?
Oui, on appelle ça le saignement rectal, ça c'est le saignement rectal, qui est un symptôme dû à certaines affections, par exemple les hémorroïdes, les ulcères, bien les fissures anales, ou bien certaines maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple. Donc, on peut voir que en règle générale, souvent, on peut observer le sang, peut-être sur le papier hygiénique, dans les selles même, ou bien peut-être dans l'eau de la cuvette du WC, on peut observer du sang. Voilà. Donc, ça inquiète parce que cela peut être un signe d'une maladie grave. Donc, du moment où on va à la selle et on remarque qu'il y a de petits saignements dans nos selles, sur les papiers toilettes, il faut s'inquiéter et rapidement courir chez un médecin pour avoir un diagnostic et un traitement adapté.
Et justement, quand on retrouve alors du sang dans les selles, très important d'aller rapidement consulter un médecin pour savoir exactement et ce qui en est la cause. Merci beaucoup, Abel. Alors, je rappelle que tout ce que vous venez alors de détailler, c'est dans votre journal alors de ce matin, Santé Éducation. On peut retrouver Santé Éducation dans les kiosques déjà ce matin partout, peut-être dans les bars et dans les kiosques, on peut le retrouver, c'est ça?
Oui, Santé Éducation est déjà dans les kiosques au prix de 1000 francs, la version papier, et au prix de 500 francs, la version numérique, sur notre site www.santé-education.com.
Merci beaucoup Abel, ça fait plaisir alors de parler toujours santé, mais au-delà de santé, nous allons parler de collège alors de Paris supérieur. En fait, nous avons des invités, je parlais entre-temps alors des invités que nous avons déjà en studio ici avec nous. C'est des grandes dames que nous avons en studio et qui nous parleront alors du collège de Paris. Alors, Madame Cathy Toquin, vous êtes attachée alors de développement au Collège de Paris. Et il y a Cynthia également, Sidou, responsable Islam, au Collège alors de Paris. Alors, quand je prends premièrement Madame Cynthia, c'est quoi le Collège alors de Paris supérieur?
Bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Alors, le Collège de Paris supérieur, c'est une école qui fait partie du groupe Collège de Paris, qui est une fédération d'universités françaises. Le groupe compte environ une dizaine d'universités françaises, d'écoles françaises, dont ESMA, Ascensia Digital College, Case Academy, etc. Ces différentes écoles sont réparties dans plusieurs villes de France, qui est bien évidemment la maison mère du groupe. Avant le Togo, le groupe s'est étendu dans plusieurs pays en Afrique, notamment Douala, Yaoundé, Guinée-Conakry, etc. Et nous continuons l'extension, bien évidemment. Ici, à Lomé, le groupe est installé dans l'enceinte du lycée scientifique, dans le lycée de Tokoin, en face de l'hôtel Edaoba. Et beaucoup de personnes, plein de fois, nous ont demandé pourquoi ce choix d'implantation, pourquoi est-ce que nous avons choisi le lycée scientifique pour nous localiser. Alors, c'est pour donner plus de sérieux, déjà, à la chose. Et il faut dire que le gouvernement a également, pendant longtemps, appuyé ce projet-là, qui soutient son initiative de garder les génies sur place pour éviter le fait que, bah, dès leur jeune âge, les jeunes soient confrontés à cette vie-là de l'Europe qui n'est pas tout à fait rose, comme on a l'habitude de le penser. Alors, nous avons on offre des programmes français, naturellement, d'où le nom Collège de Paris. Et nous avons récemment ouvert d'autres campus au Gabon et au Sénégal, dont toujours cet esprit ou ce projet d'extension.
Alors, Cathy, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, quels sont les diplômes décernés au Collège de Paris supérieur et qui sont les concernés?
Alors, nous avons les diplômes d'abord, comme vient de le dire Cynthia, oui. Sont des diplômes français, donc en licence et en master. Nous avons des filières de gestion en digital, comme le marketing digital, le management des projets, la gestion des ressources humaines, la banque financière digitale et bien d'autres. Nous avons également des filières d'informatique et aussi d'intelligence artificielle, que ce soit en big data comme en blockchain.
Là, c'est Cynthia, déjà, parlez-nous de l'actualité ou des actualités de l'Université de Paris. C'est quand la prochaine rentrée? Et tout ce qui concerne l'actualité ou les actualités alors de
alors de, comme actualité il y en a beaucoup. La rentrée est prévue pour octobre. On a une cérémonie d'ailleurs qui est prévue à cette occasion chaque mois d'octobre. Donc on va bien évidemment envoyer des invitations, vous serez invités. Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais les places sont très limitées parce que au Collège de Paris on met plus l'accent sur l'excellence et on tient vraiment à encadrer les meilleurs. Donc, on veut donner le meilleur. Donc, on ne va pas prendre plus qu'on ne peut encadrer en tenant compte de l'espace qu'on a dans nos locaux, de l'expertise des professeurs, etc. Donc, voilà. Entre-temps, je voulais rajouter, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme responsable Upsilon. Je voulais rajouter qu'on a également un autre département au sein du groupe qui est Upsilon, Collège de Paris, qui encadre notamment les professionnels. Donc, qu'est-ce que nous offrons à Upsilon? Nous offrons des certifications internationales et aussi des parcours diplômants, comme au pôle supérieur, mais cette fois-ci, juste pour les professionnels, d'accord? Donc, vous et les messieurs ici présents avez la possibilité de poursuivre votre cursus académique, je dirais ça comme ça, sans pour autant avoir à vous déplacer, que ce soit en France, dans d'autres pays, parce que je n'ai pas mentionné, nous sommes également présents à Washington et puis à Shanghai, donc vous n'aurez pas à vous déplacer, vous prenez les cours en ligne depuis votre maison, depuis votre bureau.
D'accord. Et souvent les cours pour surtout ceux qui sont déjà en fonction, en pleine fonction, c'est des cours du soir ou
Alors, pour des personnes qui sont en pleine fonction, nous on les appelle des professionnels, comme je viens de le dire, voilà. Et c'est la cible de Upsilon. Donc, ce sont des cours en ligne, mais qui se font de manière hebdomadaire, on va dire une fois par semaine, pour leur permettre de pouvoir vaquer à d'autres occupations sur leur emploi du temps. Donc, une fois par semaine, ils ont la rencontre avec le formateur qui est le référent, qui va les accompagner sur les cas pratiques, les sujets de compréhension, etc.
Voilà. Il y a des élèves élèves qui viennent alors d'avoir leur baccalauréat et qui voudront peut-être bien aller à l'université ou au collège de Paris. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi les démarches? Alors, Cathy.
Alors, merci. Alors, comme tu viens de le dire, ils font partie de nos profils, les jeunes bacheliers, que ce soit les professionnels aussi. Parce qu'il y en a qui travaillent déjà, mais qui veulent encore accentuer leur domaine de formation, leur domaine, leur spécialité. Alors, pour les jeunes étudiants qui viennent d'avoir le bac, ils n'ont qu'à se diriger vers le campus de Lomé, qui est situé dans l'enceinte du lycée scientifique de Tokoin. Et nous serons vraiment ravis de les orienter vers les filières qu'ils doivent vraiment faire. Parce que nous remarquons aujourd'hui que vraiment l'étudiant veut faire quelque chose, mais il choisit une très mauvaise filière. Donc, on voit d'abord les prérequis de l'étudiant, du futur étudiant, bien sûr, et ensuite, on l'oriente vers la filière qu'il lui faut. Alors, comme je viens de le citer, nous sommes dans les filières de gestion en digital, nous sommes aussi en informatique et aussi en intelligence artificielle. Donc, le campus de Lomé est vraiment ouvert pour les aider à pouvoir trouver leur chemin, leur but professionnel.
Alors, c'est-à-dire quand on cherchera à vous contacter, quels sont les numéros sur lesquels on peut rapidement vous contacter?
Alors, vous pouvez nous joindre sur le 93 23 64 28 ou le 91 12 88 87.
Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Peut-être que déjà lors des interventions hein, des auditeurs, et ils peuvent alors vous poser des questions. Mais toutefois, alors vous restez avec nous pour suivre le débat. Retour dans cette émission Club de la Presse et je le disais, nous sommes là pour le débat en studio avec des confrères journalistes. Nous sommes rejoints entre temps aussi par Abbas. Abbas, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce.
Alors, premier sujet dans cette émission, c'est nous parlons sécurité routière. Parce que déjà depuis le lundi, vous avez vu quand même des forces de l'ordre et de sécurité au point des feux rouges à Lomé. Vous avez constaté cela et c'est la campagne alors pour la prévention routière qui a démarré comme cela. Abbas, aujourd'hui, il est très important, vu les dégâts que des accidents causent à Lomé, il est très important qu'on continue par faire cette campagne de sensibilisation à l'égard des usagers.
Puisque le ministre a parlé d'opération feu tricolore, très souvent vous êtes là, quand vous avez garé, il y a un feu rouge qui s'est allumé, il y a des gens qui s'entêtent à vous dépasser. Tout de suite, quand je viens là, il y a plein de policiers à tous les carrefours, après sur les carrefours de feu tricolore qui font leur travail. Beaucoup d'engins ont été même arrêtés devant moi là-bas. Donc je pense que c'est une bonne chose que le ministre ait initié cette opération feu rouge, feu tricolore. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à deux semaines ou bien une semaine après, que ça s'arrête. Parce qu'on a parlé de sensibilisation. Après la sensibilisation, il faudrait que ça puisse être pérenne et que les gens puissent comprendre que c'est pour leur bien qu'on demande si le feu est allumé, est au rouge, il faudrait que vous vous arrêtez et vous respectez le feu. C'est pour quelques secondes, vous allez démarrer pour partir. Mais très souvent, les gens sont pressés et ils veulent que, bon, même si vous êtes devant lui, il ne commence pas à vous inciter que de céder, lui veut passer. Donc tout ça là, il faudrait que ça s'arrête. Nous sommes à l'étape de sensibilisation parce que ceux qui sont interpellés sont sensibilisés, après on leur remet la voiture. Mais par après, une semaine après, c'est sûr qu'on va ranger la carotte et prendre le bâton. C'est ce qui va se passer. Donc il faudrait que chacun puisse être en règle avec les feux rouges, puisque quand on dit la route nous parle, ce n'est pas que la route va se lever pour nous parler. Il y a des signaux sur lesquels nous devons respecter et avancer pour éviter ces accidents de circulation que nous avons à tout moment. C'est comme ça qu'on a fait et puis on a pu maintenir le port du casque. Avant, il y avait des problèmes pour le port du casque et le port de ceinture de sécurité. Mais après les sensibilisations qui se sont suivies, C'est rare de voir quelqu'un qui prend sa moto et qui ne porte pas de casque, ou quelqu'un qui rentre dans sa voiture, le premier réflexe, c'est de mettre sa ceinture de sécurité. Or, avant, il n'y avait pas ça. Donc, si on peut continuer dans ce sens avec l'opération Feu Tricolore et qu'on sensibilise les gens seront habitués au respect des feux tricolores.
Mmh. Alors, Fabrice, vous titrez à la une de votre journal ce matin sur la question. Vous dites sécurité routière, des mesures drastiques pour limiter les accidents. Aujourd'hui, il est très important qu'on prenne vraiment des mesures que vous qualifiez même d'ailleurs de drastiques pour limiter ces accidents.
Oui, parce que c'est un peu déplorable hein, qu'aujourd'hui on en arrive à une situation où on soit obligé de mettre les policiers dans les carrefours pour nous rappeler que quand le feu rouge s'allume, il faut qu'on s'arrête. C'est au primaire, ça s'apprend.
C'est au primaire, ça s'apprend.
Et donc, quand on parle très souvent de sous-développement et de problèmes de mentalité, c'est un peu cela. Vous voyez, aujourd'hui, le ministère de la Sécurité est obligé de prendre des policiers qui auraient pu servir à autre chose pour aller mettre dans des carrefours pour rappeler à des gaillards que lorsque le feu rouge s'allume, il faut qu'ils s'arrêtent. Alors que tout ça là, même les enfants du primaire le savent. Ils le savent pourquoi ils ne le respectent pas. C'est un peu dommage. Voilà, mon confrère disait, peut-être ça va durer 2 semaines, après ils vont partir. Alors est-ce qu'il va falloir qu'un jour on en arrive à une situation où on ne soit pas obligé de voir le gendarme ou le policier au carrefour avant de respecter les feux de signalisation, les feux tricolores ou alors les autres panneaux qui font partie de ce qu'on appelle le code de la route. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'accidents, même si les derniers chiffres montrent quand même il y a baisse, mais il faut reconnaître que surtout la route qui est considérée comme la plus mortelle au Togo, la route du contournement. Tous les matins, vous n'allez jamais emprunter cette route depuis, je dirais, les péages de Nuepé jusqu'à au port sans croiser un attroupement quelque part parce que entre-temps, quelqu'un a cogné l'autre ou alors quelqu'un traversait et pas plus qu'hier nuit, moi je rentrais tard, je suis tombé sur un accident où la personne était décédée, elle traversait je crois. Mais c'est un peu, je crois que c'est un peu la sécurité de nous tous. Il va falloir qu'on aide également le ministère de la Sécurité à réussir ce pari-là. Et je crois que sur des éléments élémentaires, si vous permettez, il faudra qu'on fasse quand même l'effort de respecter, soit qu'on soit obligé de faire le gendarme derrière nous. Oui, on est pressé, mais mieux vaut tard que jamais, comme on le dit très souvent. Et donc, aujourd'hui, ces mesures-là, le ministère de la Sécurité est obligé de les prendre pour rappeler les BABA du code de la route à des gens qui ont des permis qui datent des années et autres. Je crois que tout cela, la sensibilisation, oui, mais à un moment donné, il faut une prise de conscience individuelle. Si vous ne savez pas, on peut le comprendre. Mais la plupart, tout le monde le sait. Tout le monde sait que quand le feu rouge s'allume, on s'arrête, à moins que vous soyez une ambulance avec des gyrophares où on sait que vous avez vous faites partie des véhicules prioritaires. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on fasse violence sur notre comportement de citoyen pour qu'on utilise les policiers et les gendarmes à autre chose que de faire le pied de grue dans des carrefours pour nous rappeler cela.
Sylvestre, Fabrice a lâché le mot tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vraiment cette prise de conscience? Parce que déjà dans la rue hier, vous verrez des gens qui n'ont pas de rétroviseur sur leur moto et des gens à qui déjà leur moto même n'a pas de clignotant et tout. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment aller vers une prise de conscience?
Oui, c'est pourquoi moi je vais peut-être vous choquer. 2 semaines pour dire au grand gaillard, c'est peut-être pour reprendre Fravis, puisque on serait peut-être encore en classe, ceux de derrière, les gens de derrière, quoi, vous voyez. Donc, pour rappeler donc à de gros messieurs que, oui, tu n'as pas donc de rétroviseur, il faut le mettre. Et c'est un policier qui viendra te dire cela. Et donc, on va prendre 2 semaines pour dire à ces gens-là, quand le feu rouge s'allume, on doit s'arrêter. Donc, les policiers vont faire cela pendant 2 semaines. Non, ça, c'est trop. Mais moi, je considère que déjà 3 jours, c'est suffisant. À partir du 4e jour, on t'arrête. Non, ça devait être ça, parce que on peut pas. J'ai vu des policiers, bon, il y a aussi des reculs, bon, qui circulaient là, on t'arrête, on dit, monsieur, tu n'as pas donc de rétroviseur, tu n'as pas de clignotant, il faut prendre le soin de mettre tout ça. Non, c'est trop gentil. Parce qu'ils le savent en réalité. Donc, il faudrait maintenant qu'on utilise donc le bâton et tout le monde rentrera droit dans le bateau. Tout à l'heure, Abbas évoquait le fait donc des casques. Oui, il fut un moment, il fut un temps, le moment où on roulait sans casque. Mais à un moment donné, quand le gouvernement a dit non, maintenant il faudrait que ça s'arrête. Mais aujourd'hui, bon, il y a aussi quand même bon, quelques brebis galeuses, bon, il y en a partout, mais qui ne mettent pas les casques. Mais à un moment donné, quand le gouvernement dit niet, maintenant tout le monde, au moins la majorité porte les casques. Donc il faut sévir. Et bon, on viole les feux tricolores. Bon, le policier qui est là, vous discutez, vous lui donnez 1000 francs ou 2000 francs, il te laisse partir. Je faisais quand même une proposition la dernière fois à la police. C'est-à-dire que quelqu'un qui viole les feux, il peut avoir peut-être 10 000 francs, 20 000, voire 1 million. Vous le prenez la moto pendant une semaine, deux semaines. Mais pendant ce temps-là, s'il calcule donc ses frais d'aller-retour au boulot, il revient. Il calcule donc ses trajets. Et ce qu'il va dépenser pendant deux semaines, s'il se rappelle de ça, quand il voit le feu tricolore, il saura s'arrêter. Voyez-vous donc que, oui, bon, 5 000, il va payer 5 000, mais il va continuer. Et s'il en a suffisamment, il va encore violer le prochain feu. Et bon, on va le prendre, il donne les 5 000 et il continue. Mais si vous prenez l'argent pendant deux semaines ou trois semaines, mais il saura quand même qu'il a besoin de cela. Et quand il voit le feu tricolore, il va s'arrêter. Parce que c'est vrai qu'il y a baisse, mais la dernière fois, on nous donnait le chiffre de 336 morts, je crois. C'est beaucoup. 336 morts. Non, sur le semestre. C'est beaucoup. Vous voyez, donc, il faut sévir. Bon, c'est vrai, la carotte, mais après, bon, sortez le bâton, quoi. Voilà.
C'est vrai que, Sylvestre le disait tout de suite, mais il est important que quand on prend, surtout, c'est, il y a des forces de sécurité, peut-être, quand déjà vous discutez un tout petit peu avec eux, vous négociez avec eux après votre infraction, et vous leur glissez quelque chose, et ça passe. Cette négligence ou se laisser aller aussi en est pour quelque chose.
Ouais, les gens sont habitués à ça. C'est un laisser-aller. Il va dire, bon, je vais commettre l'infraction. Si le policier m'arrête, je vais négocier. Et ça se passe ainsi. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'incivisme. Même l'incivisme du côté de cet agent de force de sécurité-là qui a accepté de prendre les 1000 francs. Si vous disiez tout à l'heure, il faut punir. Vous prenez la moto, la personne, lorsque elle va prendre taxi ou bien Zemijan pour aller au service durant deux semaines, elle va comprendre que moi, je mets seulement 2000 francs de carburant, je pars. Mais voilà que durant les deux semaines-là, j'ai dépensé plus de 10 000 francs pour mon déplacement. La personne comprendrait et ne pourrait plus violer le feu rouge. Mais si il y a négociation, par après, on dit, bon, tout ce que j'ai vu, on a arrêté quelqu'un, il n'avait pas de rétroviseur. Il voulait s'enfuir, le policier a sifflé, il ne voulait pas s'arrêter. Il a sifflé à l'autre, il est venu le prendre, il voulait aussi le dépasser. Et l'autre est venu en même temps en renfort, on l'a pris. Et lui, il s'est cherché des problèmes. Donc, c'est que si le policier, on les a envoyés sur le terrain, eux, ce n'est pas par leur volonté qu'ils sont sortis là-bas.
Tout à fait.
Et quand ils sont là-bas, ce n'est pas pour notre sécurité, ce n'est pas pour sa sécurité. Lorsqu'on te dit de respecter le feu rouge, de ne pas le violer, c'est pour ta sécurité. Et le policier qui est là, devait dire que lorsqu'on te dit de t'arrêter au niveau du feu rouge, arrête, c'est pour quelques secondes, au lieu de me tendre 1000 francs. Donc ça, c'est ce que j'appelle le civisme ou l'incivisme de la part des deux, parce qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Aujourd'hui, il y a un autre cas qui se passe exactement, quand on parle de rétroviseurs, on dit de mettre les rétroviseurs. Les tricycles qu'on a fabriqués. Parce qu'on a prévu les rétroviseurs. Et ce sont eux-là qui causent beaucoup plus d'accidents. Donc, il n'y a même pas quelque chose. Parce qu'ils ont un gabarit. Le gabarit ressemble à celui de la voiture. Surtout la nuit, quand vous avancez, il est devant vous, vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation pour lui. Et en plus, pas de rétroviseur pour qu'il vous voit par derrière. Et ça cause des accidents. Je ne sais pas comment les mesures seront prises par rapport à eux. Est-ce qu'il faut renvoyer les taxis là par rapport à leurs fabricants pour qu'on leur recommande de mettre les rétroviseurs bien visibles, parce que on ne sait pas, puisque c'est une moto devant et à l'arrière, c'est on tire quelque chose comme une charrette. Ça ressemble à une voiture. Donc, mettre les rétroviseurs sur la moto, ça ne peut pas. Donc, on peut voir quelque chose pour que le monsieur va derrière lui ce qui va se passer. Parce qu'il cause beaucoup d'accidents par rapport à cette situation-là. Donc je pense que et nous, les usagers de la route, et les forces de sécurité qu'on met sur la route, on devait être beaucoup plus sensibilisés, avoir du civisme et dire que quand on fait ça, c'est pour notre vie, notre santé, parce que la vie, on ne blague pas avec la vie. Tu vas tu connais quelqu'un, c'est un problème.
Et Fabrice, il est souvent dit que rien ne vaut la vie, mais la vie ne vaut rien non plus. Mais au même moment, quand tu prends quelqu'un qui rentre en circulation et n'a pas de rétroviseur sur sa moto peut-être, ou son véhicule, sa voiture, et où ses clientèles ne fonctionnent pas bien, on se demande, mais comment se fait-il que cette personne peut facilement rentrer et faire la circulation comme cela se doit? Il est important plutôt pour cette personne de se dire, mais ce sont des petites règles qu'on doit utiliser, mais qui doivent plutôt nous préserver la vie.
Oui, bon, c'est des petites négligences, mais qui entraînent parfois des conséquences très dramatiques. Bon, on est allé jusqu'au rétroviseur, oui. Bon, certains peut-être pensent que c'est pour enjoliver la moto, mais ça joue son rôle. Là encore, on peut comprendre que pour ceux qui ont perdu leur rétroviseur peuvent vivre des problèmes économiques pour les remplacer. Mais moi je parle de là où tu ne dépenses rien. On te respecte le feu, on ne te demande pas de débourser de l'argent. Bon. Mais les rétroviseurs, oui, la moto est venue avec ses rétroviseurs. Il faudra que, lorsqu'il n'y en a pas, c'est comme les freins. Lorsque les freins lâchent, il faudra prendre des dispositions pour les remettre, pour ne pas créer des problèmes aux autres usagers de la route. Mais je crois qu'au-delà de la prise en conscience individuelle, maintenant, il faudra qu'également au niveau de l'État, certaines dispositions commencent par être prises. Cette histoire de tricycle, on en parlait depuis. Mais aujourd'hui, on peut rien contre ce phénomène parce que il y a des magasins qui vendent ça et il y a des gens qui l'utilisent. Depuis des années, on disait que c'est ce type d'engin va créer des problèmes et ça en crée. Bon, dans les statistiques, peut-être qu'on ne spécifie pas, mais aujourd'hui, c'est des engins qui créent des sérieux problèmes dans la circulation. Est-ce que là, il faut également des politiques? Parce que le code de la route aussi, à un moment donné, il faut l'adapter parce que eux, ils ne peuvent pas rouler en zone urbaine parce qu'ils créent des problèmes. Ils occupent la route d'une manière, parfois, vous êtes obligé de le laisser carrément passer, d'attendre et de le laisser. Ils peuvent peut-être le faire dans des zones où, bon, c'est un peu, dans la périphérie de la ville, sur les routes pas très animées où, bon, parfois les taxis ne peuvent pas aller pour les transports et autres. Mais rouler en pleine ville, parce qu'aujourd'hui, ils damnent le pion au taxi, carrément. Et ils se permettent même des charges où, parfois, en pleine rue, ils s'écroulent. Et même, ils oublient qu'il y a des charges qu'ils ne doivent pas dépasser. Mais comme il y a de la place, ils modifient le derrière. Et puis, en pleine rue, vous voyez des casiers de bière ou alors dans un tournant, il oublie qu'en réalité, il a un engin qui a mis cheval entre moto ou voiture. Je sais pas aussi parfois. Et voyez même comment il remorque les gens là-dessus. C'est à ce niveau, je crois que ça, c'est une décision. Je sais que c'est pas toi et moi qui commercialisons cette tricycle-là. Du point de vue rentabilité, ça rapporte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous disons ne passe pas. Parce que c'est eux qui achètent ça, ils mettent à la disposition des gens qui... Mais il faudra comprendre quand même à un moment donné que ce type d'engin-là, il faut trouver une solution. Et à ce niveau-là, c'est une question de volonté politique. Il faudra peut-être prendre des dispositions pour dire les tricycles en zone urbaine, c'est interdit. Bon, on peut les avoir dans des coins reculés où ils peuvent transporter du ciment et des fers pour aller dans des zones où les routes ne sont pas bien faites. Mais en pleine rue... Prenez tout le bruit. Ils créent des problèmes. Tout le monde en parle. Parce que leur positionnement dans la rue pose problème. Lui roule, il pense rouler une moto, mais il se comporte comme un véhicule. Et parfois, il veut rouler pratiquement au niveau du trottoir. Ça cause des problèmes. Quand il est en pleine chaussée, ça pose des problèmes. Et ça aussi, ça entraîne des accidents. Et donc, oui, conscience individuelle au niveau des usagers de la route. mais il faudra aussi que l'autorité en charge de la sécurité ait le courage de prendre certaines mesures. D'avoir même dans les grandes villes, il faut tenir compte de notre niveau de vie. Oui. Nous avons une culture moto, surtout en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup de villes, il y a les motos. Ça peut aller. Mais quand les tricycles là sont venus s'ajouter, ça crée plus de problèmes dans la circulation que tout autre engin.
Sylvestre, c'est vrai que entre temps l'État avait annoncé les permis de conduire alors pour les motocyclistes. Est-ce que cela ne devait pas régler aussi un problème?
Non, écoutez, il y a des gens qui ont quand même des permis, mais aussi du fait donc du manque de prudence sur nos voies, il crée également des accidents. Oui, ça peut également éviter un temps soit peu les accidents. On avait parlé entre-temps donc de permis A. Même aussi, l'État aussi est quelque peu flexible aussi sur un certain nombre de décisions. Il y avait entre-temps ce phénomène donc d'alcotest qu'on a commencé, qui a disparu donc avec Covid et plus personne n'en parle. Or, c'est également... en fait, un élément qui peut également réduire les accidents, parce que vous prenez nos amis, nos frères, les émigrants, le gars se lève, le bon matin va donc de commencer à travailler, il va donc derrière le rideau blanc, vous savez ce dont je parle, il va prendre donc au moins un petit verre donc de ce rabis de tramadol avant donc de commencer, voyez-vous. Et même, en ce qui concerne donc les rétroviseurs, il y a certains qui achètent les motos et qui enlèvent sciemment les rétroviseurs pour permettre à ce qu'on puisse prendre les bagages devant. C'est pourquoi, en fait, le ministre insiste beaucoup plus sur les rétroviseurs. Eux-mêmes, ils achètent la moto et là, ils enlèvent, ils mettent à la maison. Donc, ils ont assez de place
au niveau
des guidons pour mettre donc les bagages. C'est pourquoi on insiste aujourd'hui à ce qu'ils donc, ils mettent les rétroviseurs parce que, au tournant, certains lèvent le pied pour faire, ou la main, et donc, pour retourner et tout ça. Donc, il faudrait également insister sur les rétroviseurs là. Donc, que l'État sévisse un peu, que l'État sévisse un peu. Et que nos amis aussi prennent conscience. Vous sortez donc d'une famille, vous sortez de la maison, c'est également une joie de retourner le soir et de retrouver la famille. Maintenant, quand vous êtes sur la voie et vous vous comportez comme des... Je ne vais pas dire des idiots, mais c'est pas ce cela. Oui, je ne veux pas le dire, quoi. Mais c'est cela, donc... sinon, je ne l'ai pas dit. Ouais, donc, voilà, quoi. Il faudrait qu'ils arrêtent, quoi.
Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent. C'est très important. Alors, nous allons quitter ce sujet, alors, de sécurité routière. Et nous allons nous transporter au Niger, puisque nous savons depuis la semaine dernière, et ce qui fait même l'actualité au Niger, c'est ce coup d'État où Mohamed Bazoum a été renversé. Des journaux en parlent au Togo, beaucoup de journaux en ont parlé aujourd'hui. Et donc, nous vous livrons juste alors une de ces journaux, nous faisons la revue de presse. Alors, Le Messager, dans son journal d'aujourd'hui, titre alors à sa une, le Burkina, alors coup d'État au Niger, le Burkina et le Mali soutiennent la junte nigérienne. Et la CDAO est-elle en danger? Alors, il y a la lanterne qui titre à sa une, putsch militaire, Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger et demain. Et est-ce que les organisations de la sous-région sont encore crédibles? Le Libéral, Fabrice, vous titrez à la une de votre journal ce matin, Bamako, Ouaga, Conakry, Niamey, les putschistes au pouvoir défient la CEDEAO. Et Liberté aussi dans les kiosques, alors ce matin, titre à sa une, quel avenir pour la France au Sahel et en Afrique alors de l'Ouest. Et donc, ce sont la machette, vous titrez sur le sujet, alors tourment à la CEDEAO, colonel Abdoulaye Maïga, toute intervention militaire contre le Niger est une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Alors Abbas, c'est vrai, quand on prend ce sujet, nous avons suivi en quelque sorte le développement de cette actualité et au finish, il y a la CEDEAO qui donne déjà une semaine alors pour les putschistes. Il y a l'Union africaine qui donne 2 semaines aux putschistes alors pour rétablir l'ordre constitutionnel. Comme posait la question un journal tout de suite, est-ce que ces organisations de la sous-région, finalement, est-ce qu'elles ont encore leur crédibilité?
C'est tout la CEDEAO. faut se poser la question de savoir si la CEDEAO a encore de crédibilité. Du moment où c'est la CEDEAO qui a pris la décision d'aller attaquer un pays et d'autres pays de la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, membres de la CEDEAO, qui se lèvent pour dire que si vous attaquez, nous aussi, on va attaquer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas unanimité. Une seule personne ne peut pas prendre la décision pour aller attaquer. Le président Tinubu,
Bola, qui, du Nigeria,
qui est un ex-président en exercice de la CEDEAO, c'est parce qu'il a déclaré que de mon mandat, il n'y aura plus le coup d'État. Donc, il veut mettre en exécution cette parole dont il a eu. Donc, est-ce qu'il a consulté les autres chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO? Il y en a 15. Il y a 15 États de membres de la CEDEAO qui sont là. Mais en prenant la décision de mettre les troupes aux frontières pour aller attaquer le Niger, est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce que tous les pays de la CEDEAO, les 15, sont d'accord qu'on aille déloger les putschistes pour rétablir le président Bazoum à sa place? Bazoum lui-même l'a déclaré. Qui ne veut pas un bain de sang dans son pays? Ce n'est pas à cause de lui que les Nigériens vont mourir. Parce que quand ça va commencer par tirer, c'est les civils qui vont en pâtir. Et au même moment, le Burkina dit, si vous tirez, c'est une déclaration de guerre. La Guinée, le Mali, l'Algérie aussi. L'Algérie dit, je suis contre le coup d'État, mais on ne peut pas attaquer un pays. Et tout ceci, là, la CEDEAO ne peut pas écouter. On dit ultimatum, on doit ultimatum. On prend les sanctions. On contraint les choses, des sanctions ciblées contre ces choses, c'est mieux. Et on procède par la diplomatie, c'est mieux que d'utiliser la force militaire. La force militaire n'a jamais réglé un problème. Au contraire, ça va exacerber les tensions. Et si on veut voir la sous-région exploser, ils n'ont qu'à tenter de faire ça. Parce que tout le monde leur met en garde pour dire que si vous touchez au Niger, c'est que nous allons aussi... Interview. Et quels sont les militaires qui vont aller? Peut-être que c'est les militaires du Nigeria qui vont aller. Puisque j'ai écouté un de ces généraux là qui dit que c'est le chef qui a parlé qu'on va aller intervenir au Niger. Si c'est un ordre venu d'en haut, nous allons, le temps arriver, le moment venu là, nous allons aller intervenir. Bon, ils n'ont qu'à aller intervenir. Pour le moment, on n'a pas encore vu un pays qui dit que nous allons mettre à disposition nos forces militaires pour aller intervenir au Mali.
Les chefs d'état-major sont en réunion. Actuellement,
les chefs d'état-major sont en réunion.
Ils sont en réunion, ok. Ils sont en réunion. Mais le paradoxe, c'est que lorsque ça se passait, quand on a dit qu'il y a les terroristes qui attaquent l'Afrique de l'Ouest, on en a depuis le Mali, même beaucoup à Rame là-bas, depuis le Nigeria, là, jusqu'à arriver à notre niveau ici au Togo, pourquoi on ne pouvait pas mobiliser les forces militaires de la CEDEAO pour aller renvoyer ces terroristes-là qui sont en train de semer de la désolation dans les familles, et qu'aujourd'hui, on dit on va mobiliser les forces de la CEDEAO pour aller déloger des putschistes.
Et justement, Abbas, Sylvestre, finalement, cette question doit se poser. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand il y a putsch, on se dit, mais il est important qu'on mobilise des forces de sécurité alors pour faire dégager ou rétablir l'ordre constitutionnel. Mais est-ce que cette force-là, cette mobilisation, ne peut pas se faire en amont pour que du moins le terrorisme qui constitue un problème dans le Sahel aujourd'hui et même dans nos pays aussi soit totalement banni?
Non, je crois que c'est le nouveau président nigérien Tinubu qui... Il a tenu un certain nombre de discours. Même quand il le disait, il y a deux semaines, il disait que bon, sous son mandat, il n'y aura pas de coup d'État. Deux semaines après, on a eu le coup d'État.
Tout à fait.
Donc, il voulait faire garçon, donc, en disant, oui, bon, je vais envoyer donc les forces pour aller donc rétablir l'ordre constitutionnel. Mais c'est une comédie sous les tropiques. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, oui, on sait, le Nigeria, c'est quand même c'est une puissance militaire, mais à côté, il y a l'Algérie qui est là. L'Algérie dépasse le Nigeria. Et puis, il y a le Mali et le Burkina Faso, qui sont quand même des pays frontaliers, qui sont voisins, donc, des putschistes, si vous voulez. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à cet extrême-là, envoyer, donc, des militaires, juste parce qu'il y a un président qui a été délogé. C'est vrai que nous tous, nous condamnons ce coup d'État-là. mais ce n'est pas la manière, quoi. Ce n'est pas la manière. Tinubu, bon, il fait, c'est un autre Donald Trump, quoi. Il fait l'expérience un peu, donc, de la présidence. C'est vrai que, bon, tout chaud, tout feu, tout flamme, il est élu, hein, il a participé, donc, à la première réunion des chefs d'État, donc, il est président en essai de la CDAO. Il voulait aussi dire quelque chose pour se faire remarquer. Après, il a dit. Maintenant, deux semaines après, ça s'est passé, il voulait faire garçon, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et puis, l'autre question, c'est que, est-ce qu'il y a un amont? On peut pas prendre des dispositions pour le faire. Oui, vous savez, si nous prenons le cas donc de la Guinée-Conakry par exemple, les chefs d'État étaient là quand le professeur Alpha Condé voulait modifier la constitution pour s'offrir donc une troisième candidature ou un troisième mandat. Ils n'ont rien dit. Et après, le monsieur, il a fait arrêter les opposants et tout. Donc, il est passé comme il est à la poste et après on l'a déposé. Hein, même sort de classe, vous prenez la Côte d'Ivoire, ils étaient là. Eux-mêmes, ils ont dit dans leur disposition qu'on peut pas modifier la constitution 6 mois avant la fin de ton mandat. Mais le président, en Côte d'Ivoire, ça a été fait. Aujourd'hui, le président Ouattara fait donc son troisième mandat. Donc, il y a tellement donc de choses au niveau donc de la CDAO que ces chefs d'État ne se lèvent pas tôt en amont pour essayer donc d'interdire cela. Et après, ils laissent donc les gens venir au pouvoir et après, il y a coup d'État. C'est pourquoi nous disons que, en fait, au niveau donc du Niger, le Niger qui commence à être une référence démocratique puisque pour la première fois, on a eu un président, Issoufou Mamadou, qui a fait 2 mandats et qui est parti, puisque là aussi c'est une succession de coups d'État. Au moins, Issoufou Mamadou a fait 2 ans sans coup d'État. Et même, figurez-vous que même avant la prestation de serment donc du président Bazoum, il y a eu un coup d'État déjoué. Voyez-vous? Et après, bon, comme la garde républicaine est très proche de lui, donc lui, Bomaté, il a fini donc de prendre son thé et puis on l'a pris. Voyez-vous, ça a été un peu facile. Si ça venait peut-être de la garde nationale, peut-être qu'on aurait pu également déjouer cela. Mais aussi, lui aussi, il a un peu péché. C'est vrai qu'on ne trouve pas une excuse à ce coup d'État. Mais quand lui aussi dit, par exemple, que les terroristes sont plus armés que ses forces et qu'ils sont plus entraînés, ils sont plus équipés et tout, vous voyez, c'est également un chef d'État-major ou le chef suprême des armées qui tient un discours défaitiste, une culture de fatalité. Donc, à un moment donné, les gars se disent, bon, voilà quoi, le président même ne croit plus, donc on n'a plus de moyens, puisque avant qu'il ne soit déposé, quelques jours avant, il y a encore 8 soldats et Nigériens qui sont tombés sous les balles, donc des terroristes. Voyez-vous, donc, ils se disent, à un moment donné, il faut changer. Et puis, lorsque vous prenez également ces forces-là, et regarde à gauche, il y a le Mali qui a changé de partenaire et qui a aujourd'hui tellement, donc, d'équipements militaires. Il regarde donc à droite, il y a le Burkina Faso qui est là, qui a changé de partenaire et qui a tellement donc de moyens militaires. Mais ils se disent, nous, le partenaire est sur le territoire, mais le partenaire même nous impose des abagos sur les armes. À un moment donné, il faut faire ce coup d'État, aller changer tout. Et vous avez vu qu'ils ont même pris déjà tout de suite des dispositions contre la France en disant, en nationalisant les choses, en demandant donc le départ donc de tout cela. Donc, ouais, c'est un peu la logique. Si, je l'ai dit, on peut pas, ça n'excuse pas ce coup d'État, mais ils veulent également faire comme leur frère d'armes à côté, qui ont changé de partenaire, qui ont tellement donc de moyens militaires. Peut-être que c'est pour cela ils ont fait ce coup d'État-là. Mais aller donc prendre des forces pour aller les déloger, moi je le dis, c'est une comédie, c'est pas faisable.
Mais Fabrice, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux pour la CDAO, surtout que déjà avec la Guinée, la même chose a été dite, et au niveau du Mali et également au niveau du Burkina, ça a été dit, mais par après rien n'est fait.
Oui, c'est un peu cela. Il faut que la CDAO comprenne qu'il est temps d'arrêter d'appliquer d'une manière automatique certaines mesures qui ne cadrent pas avec l'actualité. Tu as cité des exemples où ils n'ont pas réussi à faire partir les putschistes.
Tout à fait.
Pourquoi ils pensent que c'est au Niger, ça peut être possible? Moi, je crois qu'il faut sortir de cette illusion-là. C'est pour cela, au-delà des sanctions, puisque les autres c'était des sanctions économiques, c'est pour cela ils ajoutent cet élément-là d'une force militaire pour aller déloger les putschistes, puisque effectivement Tinubu il est tombé dans un piège. Nous on l'avait dit quand il faisait cette déclaration, ah bon, sous moi il y aura une force pour combattre le terrorisme, il y aura une force pour combattre tous ceux qui vont tenter les coups d'État et tout cela. Bon voilà, il y a un cas d'école, il a un TDA à régler c'est là où on se disait quand même, à un moment donné, c'était, est-ce qu'il savait là où il mettait vraiment les pieds? Parce que moi-même, là où je suis, je me dis, est-ce que lui-même a déjà assuré ses arrières? On connaît aussi les Nigériens, hein, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'élections, mais là-bas aussi un coup d'État n'est pas, faut pas qu'il aille avoir ses idées au Niger et à un moment donné, c'est,
lui-même,
il ne revient plus. Donc, c'est un peu cela. Mais, de façon globale, ça fait rire. Ça fait pitié, ça fait rire pour l'Afrique. Parce que tout ce qui se fait, tout le monde sait qu'une opération militaire, ça peut pas être possible. Bon, maintenant, là où ça devient encore cocasse, moi, c'est l'attitude du Burkina et du Mali qui disent, ah bah, je répète, si vous déclarez, nous, on va rentrer. Vous avez des problèmes, vous n'avez même pas encore fini de régler. Ou bien c'est la Russie qui fait gesticuler les gens. Toi, Nigeria, toi qui veux prendre tes troupes pour aller au Niger, tu n'as pas fini de régler tes problèmes avec Boko Haram. Et tu penses faire peur aux gens que tu vas conduire un contingent. Et maintenant, c'est des gens à qui on a envoyé des forces militaires pour aller rétablir l'ordre dans leur pays qui disent qu'eux aussi vont, si on déclare la guerre, ça fait rire pour l'Afrique et c'est un peu triste. C'est un peu triste ce qui arrive. Mais, il faut comprendre aussi l'attitude des chefs d'État. Comme mon confrère disait, est-ce que les autres chefs d'État sont d'accord? Ils peuvent être d'accord parce qu'en fait, comme il y a un adage que Yadema nous a laissé, quand la maison de ton voisin brûle, alors il y a des gens qui sont actuellement chefs d'État. Et les exemples commencent par faire légion. Bon, on a fait coup d'État au Mali, c'est passé. On a fait coup d'État au Burkina Faso, c'est passé. On a fait coup d'État en Guinée, c'est passé. Ben, actuellement, il peut y avoir des gens aussi dans d'autres pays qui commencent peut-être par rédiger des projets de coup d'État. On n'en sait pas. Et il faut quelque chose pour décourager ces gens-là. D'où cet épouvantail de forces-là qu'on veut envoyer au Niger. Moi, je ne crois vraiment pas que ça puisse aller. Mais c'est un peu cela. Nous sommes en train d'aller vers une Afrique où... Vous voyez, au Burkina, on ne parle plus de partis politiques, hein. Ils sont allés, ils font autre chose.
Voilà.
Au Mali, ils font autre chose également. Et donc, à un moment donné, on sera dans une situation où celui qui a les biceps, si tu as l'arme, c'est déjà un point pas en avant pour devenir président. C'est un peu cela. Il peut pas aujourd'hui dire, à celui qui a fait le coup d'État, Tchiani, on peut pas lui dire de laisser tomber. Vous savez, un projet de coup d'État, c'est un projet très risqué. Maintenant, lui, il a fait, il a réussi. Et vous venez lui dire de laisser tomber. Et qu'il laisse tomber pour que qui vienne. Ce qui est sûr, c'est que Bazoum ne peut pas revenir. Parce qu'un chef qui a été déjà secoué comme ça n'aura plus d'autorité. On ne peut plus le rétablir au pouvoir. Ce qu'ils pourront dire, c'est de remettre le pouvoir aux civils. Quelqu'un est assis dans son coin tranquillement, quelqu'un prend le risque de faire un coup d'État qui marche, et toi, on va t'appeler pour venir dire « prends le pouvoir ». Ça ne marchera pas. C'est pour cela qu'il faut que la CEDEAO comprenne son échec au Mali, au Burkina et en Guinée, pour comprendre que ce n'est pas dans le cas du Niger qu'ils vont sauver la face. Ils ont déjà perdu la face. Il faut trouver d'autres moyens de régler le problème que de brandir ces éléments, toutes ces actions qui consistent à aller déloger des putschistes qui sont déjà là. Ça ne va pas être possible.
C'est vrai que le problème épineux, c'est-à-dire le terrorisme, demeure dans le Sahel et même d'ailleurs dans d'autres pays. Mais le problème même n'est pas touché pour le moment. C'est-à-dire la CEDEAO et ses autres institutions ne cherchent pas à régler le problème pour le moment.
Ouais, je l'ai dit tantôt. Pourquoi, depuis que le terrorisme a commencé, depuis même Boko Haram, ça a gagné le Mali, c'est venu au Burkina Faso, c'est arrivé même chez nous aussi ici. Nous avons toujours dit qu'il faudrait une force de la CEDEAO, une force militaire de la CEDEAO pour aller au moins contrer ces djihadistes. Ça n'a jamais été fait. En tant que c'est le Togo avec le ministre de la Sécurité qui a tenté de faire une réunion avec le Ghana, le Burkina Faso, pour qu'au moins on puisse avoir un tampon pour éviter les djihadistes là de venir. Mais au niveau de la CEDEAO elle-même, là, on n'a jamais pris cette décision. Pendant que les gens sont en train de crier, on dit qu'il faut avoir une force militaire de la CEDEAO qui va aider. Pourquoi la CEDEAO n'a jamais accepté avoir cette force-là? Parce que c'est la sous-région ouest-africaine qui est attaquée. C'est les pays de la CEDEAO qui sont attaqués. Mais la CEDEAO n'a jamais songé à s'organiser pour aller contre. Est-ce que la CEDEAO est pour ce qui se passe dans le Mali, ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe au Togo et au Bénin? Et au Ghana également. Est-ce que la CEDEAO est pour ça? Et depuis là, on ne s'organise même pas pour mettre fin à ce terrorisme qui est en train d'avancer de gagner tous les pays. Il y a problème. Il y a problème. Est-ce que la CEDEAO est complice de quelqu'un qui finance les terroristes? Question des interrogations qui nous sont en train de poser. Ce n'est pas normal que nous sommes attaqués depuis des années. On a une organisation régionale qui devait prendre des dispositions pour défendre son peuple de ce qui se passe et conserver l'intégrité du territoire. On ne le fait pas. Et aujourd'hui, on sort pour dire qu'on soutient, on va dégager, on mobilise des forces pour aller dégager. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, Fabrice m'a un peu contredit, mais j'ai dit, est-ce que les chefs d'État sont d'accord? S'ils étaient unanimes sur la question, les Burkinabés, Maliens, Guinéens n'allaient pas dire...
Non, eux ils ne siègent plus à la CEDEAO depuis leur posture de putschiste. Mais il y a une réunion, c'est à l'issue de la réunion que toutes ces décisions-là ont été prises. Bon, de toutes les façons, jusqu'alors, il n'y a que les chefs d'État putschistes qui donnent un son discordant par rapport à cela. Bon, ni le Togo, ni le Bénin, ni le Ghana n'a levé que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été dit.
Et puis on n'engage pas une armée comme ça dans nos combats. Pour engager l'armée, il faudrait des procédures. Ouais. C'est-à-dire l'Assemblée nationale
c'est l'élément.
L'Assemblée nationale doit se réunir.
Ouais, tout dépend du schéma. Quand vous avez envoyé vos forces dans les munitions et tout ça, là, vous êtes passé par l'Assemblée nationale.
Non, ça, c'est le munitions.
Oui, c'est pour ça que j'ai
engagé. Dans la guerre.
Non, le Togo ne s'engage pas dans une guerre. On dit, c'est une organisation sous-régionale. Et quand il y a eu Ecomog ici, on a envoyé des militaires.
Ça allait faire la guerre.
Mais ce que moi je dis, par rapport à l'intérêt de quelqu'un qui est actuellement chef d'État, peut-être, d'être intéressé par la pression qu'on met sur le putschiste nigérien, c'est de sauver individuellement sa peau. C'est-à-dire que j'ai fait un développement ici. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte que dans l'Afrique francophone, en tout cas, il y a plein d'exemples qui sont là. Si tu veux être président, c'est pas la peine d'aller prendre un récépissé de parti politique au ministère de l'administration territoriale. Parce que dans d'autres, aujourd'hui, nous sommes en train de retourner vers une situation du lendemain des indépendances, où c'est les coups d'État. Et apparemment, ça marche. En tout cas, pour certains...
Et là, est-ce que ce n'est pas la démocratie qui prend un coup?
Oui, la démocratie prend un coup. Mais le problème, c'est que... Le paradoxe, c'est que quand ils finissent de faire le coup d'État, les gens les acclament.
Justement. Oui.
C'est là où...
c'est ça la différence.
C'est là où...
La légalité, la légitimité.
Oui, donc au même moment... Il y a aussi des gens qui sont élus et au lendemain c'est des troubles parce que les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et pendant ce temps, il y a des gens qui font le coup d'État et le lendemain on les acclame comme des héros. C'est à cela, je dis, il est dans l'intérêt des chefs d'État actuels de trouver une solution pour décourager tous ceux qui sont en train de rédiger dans leur coin des projets de coup d'État. Parce que ce qu'ils sont en train de faire au Niger, à supposer qu'ils envoient effectivement une force, et on arrive à déloger le putschiste là-bas et on installe. Là, ça voudrait dire que la CEDEAO a évolué. Puisque les sanctions économiques n'ont rien donné.
Non.
Partout ils sont revenus là-dessus, ça n'a rien donné. Donc maintenant, l'élément nouveau, c'est de dépêcher une force militaire. Et on se demande comment est-ce que ça peut être fait. Est-ce que c'est possible? Maintenant, s'ils le font et c'est possible et ils arrivent à anéantir le putschiste, les gens vont pousser un ouf de soulagement pour dire, pour les prochains, celui qui fait, il risque d'avoir sur sa route une force qui viendra le déloger.
Et si jamais ça
Si ça échoue,
c'est la fin de
c'est là où le dilemme de la CEDEAO aujourd'hui. Parce que s'ils n'envoient pas cette force-là, ça voudrait dire que c'est le Burkina et le Mali qui leur font peur.
Voilà.
Parce qu'on a dit, si vous le faites, nous allons réagir. Donc si vous ne le faites pas, c'est que vous avez cédé à l'intimidation du Burkina et du Mali. Et c'est là où notre continent devient ridicule.
Alors, Sylvestre, c'est vrai que quand il y a coup d'État, et que souvent dans ces pays que nous venons alors de citer, d'habitude, quand les populations, ces gens-là qui manifestent pour soutenir alors les putschistes, vous les verrez brandir alors le drapeau russe, et là on brûle même d'ailleurs le drapeau français. Est-ce que ça ne donne pas un message?
Oui, oui. Vous savez, aujourd'hui, pendant des années. C'est-à-dire que l'oligarchie du passé, du présent, je veux parler donc de la France-Afrique, les Africains montrent quand même, prouvent à suffisance qu'ils en ont marre. Et lorsque vous voyez que ce soit au Mali, bien avant même le coup d'État, lors donc de la manifestation, je crois, la dernière contre Ibeka, vous avez vu que les Maliens brûlaient donc le drapeau français, ils exhibaient donc le drapeau russe.
Tout à fait.
Une sorte donc de se dire que, en fait, nous sommes assez grands, nous sommes un pays souverain et nous pouvons quand même nous choisir un partenaire non encombrant, si vous voulez. Parce qu'ils estiment que ça fait des années qu'ils sont sous la coupe donc de la France, mais que ça ne marche pas. Et donc la même chose, nous avons vu la même chose donc au Burkina, où même après le coup d'État, il y a beaucoup qui ont pris pour possible les intérêts français, où l'ambassade donc de France a été brûlée donc au Burkina Faso, au Niger aussi, ça a été, on l'a vu également il y a quelques jours au Niger. Justement. Et tout. Et donc les gens se disent qu'ils en ont marre quand même de la France. Mais en réalité, c'est pas, et là, il y a beaucoup, donc, ils disent qu'il y a un sentiment anti-français. En réalité, moi, je dis que c'est pas un sentiment anti-français, mais, en fait, c'est, une révolte contre la politique africaine de la France. Je crois que c'est différent, il faut nuancer, parce que les gens se disent que la manière dont, c'est-à-dire la diplomatie française, du fait, donc, de ses intérêts, et donc, de ses acquaintances avec certains présidents, donc, de la CDAE et tout, les gens se disent que oui, on a fait avec la France pendant des années, ça n'a rien donné maintenant, il faudrait qu'on change de partenaire. C'est tout. C'est tout. Donc, la Russie intervient, ou réintervient, puisque la Russie était là, sur le territoire, au temps donc de la décolonisation, sous Poutine même, il était là, au temps de la décolonisation. Donc, la Russie revient petitement au moment où la France est en train également de sortir. Mais bon, pas totalement. Donc, c'est cela, en fait, le portrait, c'est cela, en fait, le paysage. Les gens se disent, bon, voilà, quoi, bon, on a trop vu la France, mais si on peut faire avec d'autres personnes aussi, ça pourra marcher. C'est juste le... Et donc, on exhibe juste le drapeau russe pour dire, bon, maintenant, on peut faire avec d'autres. Et bon, si on voit les putschistes qui brandissent, on prend le cas donc du Mali, je disais tout à l'heure, qu'ils ont monté donc beaucoup d'équipements en disant ils ont pris donc ça vient de la Russie, ça vient de l'Iran, ça vient de la Chine et tout. Le Burkina Faso aussi qui dit oui, on a commandé des armes que le gouvernement français a bloqué aujourd'hui, on est avec d'autres partenaires, on a tellement donc d'équipements militaires, donc allons avec d'autres partenaires, si ça peut marcher, c'est cela. Mais bon, il faut dire que la Russie aussi n'offre pas ces choses à 100%. Il peut y avoir également des renouveaux. Voilà.
Nous sommes obligés alors d'arrêter le débat là parce qu'il est déjà midi. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après pour donner surtout l'opportunité à nos auditeurs de se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. 93.5. Retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi et maintenant vous avez la parole, vous pouvez nous appeler sur le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Un premier auditeur en ligne. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour Papa
Sardinet. Oui, c'est Papa Sardinet.
Oui, allez-y.
Je salue tout d'abord le plateau.
Oui.
Bon, nous savons tous que le coup d'État n'est pas bon. Mais la CDAO a ignoré de commencer par les chefs d'État qui essaient de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Là, la CDAO ne dit rien et maintenant il essaie de rétablir l'ordre constitutionnel. Il ne peut pas réussir. Il devait d'abord commencer par le commencement. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. 22 21 314. Allô.
Allô. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, c'est Francis.
Oui, c'est Nakima.
Ah, Nakima.
Oui, je vais parler un peu du code que vous avez parlé. Les rues de Lomé, sincèrement, les mairies ont joué un rôle important, mais ça a lâché encore. Parce que les rues, quand vous prenez les rues, vous arrivez dans un carrefour, vous prenez le grand contournement, arrivez au niveau des sœurs, on vend le carburant. Des fois, je m'arrête même pour dire aux policiers, vous voyez, vous dirigez l'altercation, on vend le carburant et dans l'angle là-bas. et les femmes aussi vendent certaines choses. Ça encombre la circulation. Mais les maires aussi se promènent pour prendre de l'argent. Il faut déloger toutes ces personnes-là. Et il y a des réserves. Ils n'ont qu'à aménager des réserves et conduire tous ceux qui sont dans les intercessions d'aller dans les réserves pour installer leurs marchandises. Et au moins, là-bas, quand vous prenez le grand continent, arrivez au carrefour de Pala, je vous assure, si on rien n'est fait là-bas, là, on va ramasser des cadavres là-bas bientôt. C'est dangereux. Tout est fermé. Il y a la station d'essence ici et tout à droite en allant, tout est fermé. Oui, est-ce que ça ne crée pas des accidents? Ils ont balayé les routes, ils n'ont qu'à chercher les caterpillars pour racler. Si c'est pour mettre les arbres, on met les arbres. Que de laisser les gens, ils ont fait. Mais les gens viennent encore s'installer. Ça donne quoi maintenant? Bon, deuxième chose, on parle des coups d'État, comme l'autre vient de le dire. Tous ceux qui ont modifié, la CDAO a échoué depuis très tôt le matin. Quand vous prenez le Togo, le
Cap. Nous sommes au soir.
Oui, tous les pays là. Ils ont modifié les choses. Et les gens ont mis leur compteur à zéro. La CEDEAO n'a rien dit. Et c'est maintenant qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent faire au Niger, je vous assure que l'Afrique serait embrasée. Je vous pose la question de savoir qui nourrit les djihadistes, qui les alimente, qui leur paye les motos. Et les armes, des fois on dit qu'on a saisi les armes. Souvent on dit que les armes, là où on a fabriqué les armes là, on sait non. Qui les nourrit? Depuis, vous et moi, nous avons vu depuis la Libye, quand ils ont tué Kadhafi, les 4x4 en ligne, jusqu'à atterrir au Mali. Ouais, est-ce que ça là, qui est derrière ça? Et depuis là, nos chefs d'État ne peuvent pas nous dire quelque chose de concret. Et ces militaires aussi, ils n'ont qu'à dire la vérité à la population. Parce que la population souffre trop. On cherche le manger, on ne trouve pas. On prend l'argent, on dit on va acheter les armes. On achète les armes, ça ne donne rien sur le terrain. Et les populations continuent par tomber. Les militaires continuent par tomber. Et les chefs d'État, ils sont dans leur palais. Ils bougent, ils mangent bien, ils font tout.
Mais,
oui.
Merci beaucoup. 22-21-33-114, allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Madame ici.
Avec tous là-bas.
Oui, bonjour.
Oui, vu, ça fait un moment, j'ai pas entendu Fabrice. Il est parti chez le Poutine aussi ou quoi? Non, c'est pour rigoler. Je l'entends ça depuis quelques semaines. Bon, les Africains évoluent dans les coups d'État. Les coups d'État les connaissent. C'est depuis 63 que ça a commencé au Togo, qu'ils se plaisent à faire ça. Personne ne leur dit rien, on ne les traîne pas devant les tribunaux et jusqu'à ce qu'on en arrive là, avec l'Afrique en lambeaux et tout ce qu'on veut. Et puis, vous voulez quoi? La CDAO, la fameuse aussi, CDAO, est composée des petits militaires constitutionnels. Ils sont tous là-bas, regroupés là-bas, et voilà quoi. Et puis vous voulez quoi?
Moi,
oui, je veux dire aussi, les Togo qui s'acharnent sur ces coups d'État-là, qui sont récurrents dans ces pays, c'est pas nouveau, Mali, Niger, tout ça là, ils font des coups d'État tous les ans, non? Et maintenant, vous vous acharnez, pourquoi? Et ces pays-là, vous ont soutenu en quoi depuis 63 que vous vous battez pour la démocratie au Togo? Personne ne vous a jamais soutenu? Hein, les Togolais s'acharnent. Moi, je le trouve bizarre.
Mais pour le moment, le Togo n'a pas encore donné sa position.
C'est vide là-bas. Comment fait-il? Merci.
Merci beaucoup, madame ici. Vando, 21-33-114. Allô?
Oui, bonsoir, cher.
Oui, bonjour.
Journaliste.
Oui, le nom?
Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué.
Benoît Dagoué. Allez-y, Benoît.
Ok, je salue le plateau. Et moi, j'aimerais dire que nos chefs d'État ont, comme disait quelqu'un, ils ont carré. Le premier jour, bien la veille du coup d'État au Niger, ils devaient, je sais pas si, ils devaient se précipiter pour aller négocier avec le chef des GACOR. Je pense qu'ils ont minimisé et aussi, lui aussi, il a pris le soin de communiquer avec le chef d'état-major nigérien. Et c'est ça qu'il a formulé en le mot de coup d'état. Comme le disait le président français, ce qui s'est passé au Niger n'est pas un coup d'état légitime. Et son ambassadeur, du coup, je voulais savoir, c'est quel coup d'état qui est légitime? Et aussi, je voudrais dire à nos chefs d'État qui veulent envoyer les soldats au Mali, pardon, au Niger. Le Niger et le Niger n'est pas en guerre civile. C'est le président, comment je vais dire ça avant. Il faut que le chef d'État mette le bal à terre. Parce que les États-Unis aussi ne sont pas pour leur initiative. Mmh. Donc, je pense que le président du Togo, notre cher pays, le Togo, sont les sénateurs de à se mêler de ces affaires-là.
Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Benoît, et bonne journée à toi.
Bonjour, allô. Canada-Dame.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Richard depuis Copenhague.
Ah, Richard, notre ami Richard depuis Copenhague, Danemark.
Ouais.
Oui.
Il y a Fabrice qui a fait une analyse très pertinente que j'ai appréciée. Vous voyez, la CEDEAO doit prendre sa décision. La CEDEAO doit attaquer. Vous voyez ce qui se passe. Ça risque de nous contaminer. Actuellement, je sais que il y a sept pays qui sont attaqués par les terroristes. Il y a des militaires qui sont en train de nourrir l'envie aussi. Vous n'avez même pas la capacité d'aller combattre ces djihadistes, ces terroristes, mais vous avez la force d'enlever des présidents. C'est tellement absurde. Il faudrait que ces bandits soient balayés dans l'Afrique de l'Ouest. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Pour la sécurité, je ne sais pas qui, quand vous sortez dans la rue, des fois vous développez l'envie de faire du mal. Il y a des moutons, il faut des erreurs. Quand tu veux parler, on vous insulte. Des fois vous êtes tellement difficile, je ne sais même pas comment ils vont. Des fois je me pose la question à savoir si ces personnes sortent avec leur photocopie de leur vie. Ils ont laissé leur gilet à la maison et ils sortent. C'est tellement. Il faudrait que le ministre fasse un peu. Et ces choses, quoi. Sinon, c'est tellement. C'est gênant de voir tes frères. Quand tu sors, tu vois des accidents bêtes.
Richard. Merci beaucoup. Le message est passé. Vando 21
314. Allô.
Allô. Bonjour.
Bonjour.
Le nom?
Salut le plateau.
Oui, salut.
C'est Nyamavo.
Nyamavo. Allez-y.
Un journaliste a tenté de lâcher le mot, mais c'est ça, c'est l'idiotie. C'est que nos amis roulent sur la route comme moto là. Ils peuvent avoir leur permis. Avoir le rétroviseur clientèle. Mais comment on peut justifier quelqu'un qui roule à vive allure, il arrive à un point de sécession, il fonce toujours comme ça, à vive allure. Et je me rappelle, il y avait un doyen qui était à sa retraite, il dit que jusqu'à sa retraite, il n'a jamais eu d'accident, il faut être prudent. Personne n'a, ils n'ont pas de mesure de prudence sur la route. C'est ça qui cause les accidents, même les véhicules. Entre-temps, on était au feu rouge, il y avait une voiture personnelle, il klaxonnait à toute tête, et je lui ai fait signe de sauter. Après tout, on a démarré, il arrive à mon niveau, il veut me grogner. Je lui ai dit, tu peux être officier. Il a déjà dit, saute. Mais comment on est au feu rouge, tu arrives, tu klaxonnes, on va faire comment? Et puis, devant nous-mêmes, ici, à la caisse, les policiers ont pris une voiture là, ils l'ont rattrapé au niveau de pharmacie, là-bas. Et le gars sort, le policier était désolé, il dit que mais il fallait nous faire signe. Rendez-nous la tâche facile, quoi. Il y a certains, des autorités, qui passent, comme le dit Maman, ça dit que les voies autorisées, quoi. Hein? Même chose au niveau de Covid, là. Un policier, il était en civil, il a viré, le policier était sur la rue, il dit, ah, lui là, on l'a déjà pris 1000 francs. Il arrive là-bas, le policier se lève sur la moto, il le tape dans les jambes. Le président dit que c'est encore un policier qui passe encore comme ça. Donc, tout le monde, l'incivisme a grandi, ça a rentré dans tous les secteurs. Ce cas-là, bon, au niveau des coups d'État,
oui,
de
m'avoir rapidement.
Je crois que la CEDEAO doit prendre le Togo comme médiateur pour régler ces gens-là. Je disais à un parent, si tu achètes un document d'exercice à ton enfant pendant les vacances, ça lui sert à quoi? il faut apprendre avant de résoudre un devoir. Je crois que le Togo, depuis 1963, on a lu, il était une fois, il y a des morts. Bon, ils ont, bon, comme l'a dit l'autre, mon ami là, le frère, là, que le Togo est dirigé par l'armée à façade civile. Donc, à faire du Togo une république de médiateurs, comme au niveau des coups d'État, et puis ça serait résolu, quoi.
Merci beaucoup Niamavo, et je pense que Niamavo c'est le dernier auditeur que nous avons reçu alors dans cette émission. Abbas, Sylvestre, également Fabrice, vous avez écouté les uns et les autres, la réaction des auditeurs. Abbas, et quelle réaction vous avez par rapport à tout ce que les auditeurs ont dit?
Bon, je pense que les auditeurs ont ressassé tout ce que nous avons dit ici.
Tout à fait.
Et ils ont donné leur impression, les analyses par rapport à ce qui se passe au Niger. Et sur la situation de la CEDEAO, sur les routes, le code de la route, le respect, le code de la route, tout ça là également, ils ont donné leur avis. Je pense que c'est les uns les autres vont comprendre qu'aujourd'hui il faudrait qu'on soit un peu civique, qu'on ait un peu de civisme dans nos comportements et surtout les faits tricolores, qu'on puisse avoir le temps de les respecter. Une seconde, tu t'arrêtes seulement et puis ça va se rallumer, tu vas partir. Mais le temps dit que je suis pressé, c'est cette histoire de presser là qui fait que les gens courent des accidents. Je pense que les uns et les autres vont comprendre le bien fondé de cette opération fait tricolore propre et que ça ne dure pas dans le temps comme les gens l'ont proposé, que nous-mêmes les usagers on puisse prendre conscience que c'est notre vie qui est en danger.
Sylvestre?
Non, écoutez, je ne vais pas commenter les commentaires des auditeurs, mais eux tous, ils ont quand même relevé la situation sécuritaire sur nos routes, hein, et donc et au Niger. Et bon, sur nos routes, je vais également demander, du moins aux autorités, sinon aux communes, de prendre également des dispositions pour que les feux tricolores marchent d'abord, parce que ces feux ne marchent pas la plupart. Hein, la plupart, donc 80%, hein, des feux tricolores dans le Grand Lomé ne marchent pas. Il faudrait d'abord qu'on prenne des dispositions pour que ces feux-là commencent déjà à fonctionner avant qu'on ne puisse les respecter. Maintenant, l'autre chose, c'est les lampadaires. Lui, il a dit la dernière fois, nos lampadaires qui fonctionnent comme des guirlandes, hein, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. À un moment donné aussi, il faudrait qu'on puisse revoir tout ça, rétablir tout ça, parce que généralement, la nuit, vous prenez donc la nouvelle voie d'Aïe de Gomé. La nuit, c'est la croix à la bannière, hein, de Atikoumé vers Avenou, il y a la lumière de Avenou vers au niveau donc de ce VP, et ça s'éteint. Et après, bon, vous continuez un peu. Bon, vous avez ça, quoi. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne également cette disposition. Maintenant, pour la question sécuritaire au Niger, beaucoup ne sont pas pour une intervention militaire, ne serait-ce que du Togo. Donc, soyons médiateurs, c'est mieux.
L'essentiel, c'est, voilà, d'être médiateur. Voilà. Fabrice?
Non, en ce qui concerne le code de la route, je crois que, comme on l'a dit, il faut une prise de conscience individuelle, mais à part ça, il faudra également que l'État pose certains actes qui peuvent amener les gens, pas les gens, ou du moins la vie a changé, parce qu'aujourd'hui, je vois que le système de bus interurbain commence, les Togolais commencent par s'habituer à cela. Je crois qu'au fur et à mesure que le parc va s'enrichir, il y aura beaucoup de bus. Ça va aussi régler un grand nombre de problèmes au sein de la circulation qu'on rencontre au niveau de la circulation. Imaginez-vous si pratiquement dans tous les grands quartiers de Lomé, un bus s'arrête à chaque 5 ou 7 minutes. Vous allez comprendre que beaucoup vont préférer laisser leur moto et autres pour prendre le bus et rallier l'endroit où ils vont. Ça fait partie des idées également pour tout le monde. Maintenant, moi je sais que c'est sur la question du coup d'État. Je disais tout simplement qu'en réalité, l'option militaire brandie par la CEDEAO, c'est un peu ça la nouveauté. Même si on peut parler pas dans un passé des écomogs, c'était pas dans une même situation. C'était dans des cas de rébellion et autres. Et donc, puisque les sanctions économiques n'ont rien donné, effectivement, les sanctions économiques n'ont jamais rien donné. Nous-mêmes, on a été sanctionnés, je crois, en 93. On a coupé toutes les mains. Il y a des mains restées au pouvoir jusqu'à la fin. Il est mort de sa propre mort, comme, comme on peut le dire. Donc, aujourd'hui, les sanctions au Mali, ça n'a rien donné. Mm. Au Burkina, ça ne donne rien. En Guinée, ça ne donne rien. Maintenant, l'option militaire, je ne pense pas non plus que ça puisse être possible. Parce qu'en réalité, ça aussi, ça risque d'être plus compliqué. Parce que quand vous venez par la force, vous n'allez pas aller substituer à l'armée guinéenne une autre force. Je ne sais pas comment. Je me dis peut-être que c'était une épée de Damoclès pour faire peur aux putschistes. Mais là où la situation se complique maintenant, comme je le disais, c'est la position du Burkina et du Mali qui disent si jamais ils déploient une force. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où si jamais Tinubu ne déploie pas sa force-là, on va dire qu'il a reculé devant les menaces du Burkina et du Mali.
Alors, les charmantes dames alors du Collège de Paris sont toujours avec nous. Malheureusement, les auditeurs n'ont pas posé de questions concernant alors tout ce que nous avons dit alors sur le Collège alors de Paris. Peut-être qu'ils ont tout compris. Alors, Cynthia, oui. Si vous avez un mot de la fin.
Alors, comme mot de la fin, je dirais que le Collège de Paris attend tous les étudiants, tous les nouveaux bacheliers surtout, et que les places sont très limitées. La rentrée académique, c'est pour octobre, donc il faut déjà commencer par se bousculer pour les inscriptions. Et pour nous joindre, je vais encore une fois donner les contacts. Donc, c'est le 93 23 64 28 ou le 91 12 88 87. Merci.
Merci, Cathy. Un mot de la fin.
Alors, merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Alors, on rappelle bien évidemment aux jeunes bacheliers, surtout aux plus méritants, de pouvoir passer le plus tôt que possible dans l'enceinte du lycée scientifique dans notre campus du Togo, à pouvoir décrocher leur bourse d'études qui va leur permettre de bien se former dans les formations, dans des domaines innovants avec une formation de pointe. Et comme vient de le dire Cynthia, les places sont très limitées et le plus tôt serait vraiment le mieux. Et pour ceux qui vraiment veulent continuer leurs études après dans notre campus, puisque de base nous sommes en France, également nous avons la possibilité de les faire transférer puisque nous avons la mobilité internationale. Donc le plus tôt serait le mieux.
Le plus tôt
parce qu'au Collège de Paris supérieur, on ne recrute pas les élites, mais plutôt on la forme.
D'accord, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes Cathy Tauquin, et vous êtes attachée de développement au Collège de Paris, et Cynthia Seydou est responsable Obsilon au Collège de Paris. Alors, chers confrères, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Abbas, carton de fin d'émission rapidement.
Mon carton, il est vert. Hein. Je l'envoie à une association. Ça, on l'appelle Tadona Style, qui a fait la promotion des artisans.
Voilà.
En organisant une nuit des artisans, au cours de laquelle les meilleurs artisans de l'année ont été primés.
C'était samedi dernier.
Samedi dernier.
Au palais des congrès de l'OMI.
Oui, donc ça a pris. Il a lancé ça le 27 et ça a duré 3 jours avec des expositions.
D'accord, merci beaucoup. Sylvestre, carton de fin d'émission.
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de carton. Je passe.
D'accord, merci beaucoup. Fabrice.
Pas de carton.
Pas de carton. Merci à vous, Abbas. Merci. Merci Sylvestre. Merci Fabrice. Merci également à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Merci à Géraud Akoucha qui a assuré la mise en ligne. On se retrouve la prochaine fois. Appelez-moi Pascal Lossou. Au revoir.